Donc je vais d'abord vous remercier tous d'être venus. Je remercie les orateurs d'avoir fait leur travail. Et puis Céline Surprenant d'avoir organisé d'une main de maître toute cette affaire. Je suis sûr que les orateurs qui sont encore là auront à cœur de lui envoyer les manuscrits qu'elle réclame depuis quelque temps déjà. J'essaierai de le faire, hein, moi-même d'ailleurs. Voilà. Donc, pour ce qui est des conclusions, j'ai raté deux ou trois conférences pour des raisons qui ont lié à mes activités, mais donc je ne vais pas, évidemment, et ce serait inintéressant, reprendre tout ce qui a été dit. Il y a une chose qui m'a, à mon avis, qui est assez importante, à mon avis, c'est d'abord l'Europe, dans cette période du 19e siècle, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez, au fil des noms qui ont été donnés, pris en considération le grand nombre de scientifiques sur une toute petite surface de quelques milliers de mètres carrés, en fait, et ce que cela a apporté à la compréhension du vivant au XIXe siècle, sur, je dirais, une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose d'absolument bouleversant dans l'histoire des sciences, et qui fait que le XIXe siècle est peut-être en fait le siècle de la biologie d'une certaine façon. Et je crois même qu'il est le siècle de la biologie quand on pense au phare auquel je faisais allusion hier matin et dont on ne va pas répéter les noms, mais certains ont été évidemment discutés aujourd'hui et hier abondamment. L'autre chose qui est frappante, c'est... même si les vérités scientifiques sont des vérités non discutables, c'est l'importance en fait du milieu national. Hein. Vous avez bien vu que si on est en Angleterre, si on est en Allemagne, en Angleterre évidemment il y a une grande tradition empirique donc, qui marque évidemment le fait que pour Darwin il n'y a pas de question de savoir s'il est ou s'il n'est pas un savant. En Allemagne, vous avez la philosophie de la nature, qui évidemment, on voit derrière Hegel, la grande figure de Goethe, et toute la philosophie de la nature allemande, qui fait qu'ils font de la science pas de la même façon. Et vous voyez qu'en France, la figure cartésienne, la rigueur expérimentale, le déterminisme, toutes ces questions sont au cœur de la façon dont les Français comprennent la science, et mettre des règles, il y a quelque chose d'extraordinairement violent, en fait, quasiment policier dans la façon dont les structures scientifiques peuvent être organisées de cette façon. Et c'est des positions philosophiques, en même temps, dans les trois cas. Et c'est ça qui rend, en fait, d'une certaine façon, que le passage entre l'Angleterre et l'Allemagne a été plus facile que le passage entre l'Angleterre et la France, à cause des traditions nationales qui sont évidemment très différentes. Ça ne veut pas dire qu'une est mieux que l'autre, ça veut dire qu'il y a une grande diversité culturelle qui permet à la science de se développer dans un sens ou dans un autre, aux idées de passer plus ou moins vite, ou plus ou moins lentement, en l'occurrence pour ce qui est du darwinisme. Donc, et la troisième chose à laquelle je voudrais quand même attirer l'attention, c'est la facilité avec laquelle, même quand on est un philosophe, on peut faire des anachronismes. Par exemple, si vous prenez la définition du néo-lamarckisme, il est évident que la définition du néo-lamarckisme n'est pas la même après 1941, ou je dirais plus gentiment, disons, après 1910. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a découvert qu'il y avait des caractères discrets qui s'appellent les gènes, que, évidemment, De Vries et ses collègues ont redécouvert les lois de Mendel, à partir... moment où on a découvert la nature chimique de l'ADN, mais ça c'est 1941 quand même, hein, c'est quand même très très tardif, et bien évidemment la définition du néo-lamarckisme n'est plus la même qu'en 1907, et que, j'y pense à cause de ce qui a été dit du côté de Bergson, on ne peut pas penser le néo-lamarckisme en 1907 comme on le pense une fois qu'on sait comment ça fonctionne, et comment, en particulier Geneviève a pu nous raconter, mais il y aurait d'autres choses à raconter sur la façon dont le système nerveux... engrange l'information d'une certaine façon, ou le milieu, ou comment le milieu secrète le système nerveux, et chez les humains tout particulièrement. Et là, ça nous ramène évidemment à cette distinction entre l'instinct et l'intelligence, qui est une distinction qui a été proposée par évidemment Bergson, mais qui nous ramène à l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse d'une certaine façon. Donc ça, c'est les trois conclusions que je voulais tirer, justement pour qu'on puisse continuer à réfléchir tous ensemble. Je voudrais remercier Antoine d'avoir donné la place à Darwin au Collège de France, puisque Antoine a fait entrer Darwin au Collège de France une fois de plus. Et je voudrais de nouveau vous remercier tous pour la façon dont vous avez participé et avec patiemment essayé de rattraper votre retard scolaire. En tout cas, le mien, j'en ai rattrapé un bout, même si c'est quelque chose de totalement irrattrapable. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.